Quand les bulles éclatent à la surface, elles libèrent le parfum et c'est grâce à ces bulles qui montent que on sent le parfum agréable, je crois, du champagne au moment où on le boit.
Impatience, Lucille Solari.
Un physicien qui fait de la poésie de manière tout à fait consciente, ça existe. Il s'appelle Sébastien Balibar, il est donc physicien, il est même directeur de recherche au CNRS. Et puis, de temps en temps, il fait du cyclisme, il aime beaucoup le vélo. Et puis, il fait également de la poésie. Ça donne un très joli petit livre qui s'intitule « Je casse de l'eau et autres rêveries scientifiques » qui paraît en ce moment aux éditions du Pommier. Et vous allez voir que si, quand on est poète, on l'est dans toutes les circonstances de la vie, avec Sébastien Balibar, vous allez voir que quand on est scientifique, physicien, on l'est aussi dans toutes les circonstances de la vie.
Écoutez, je crois que quand on est chercheur, on rêve nécessairement. Bon, autrement, on n'a pas d'idée originale, vous voyez. D'ailleurs, il y a, dans ce livre, il y a des petits moments où je me laisse aller expliquer que j'ai des idées la nuit ou dans mon bain. Bon. Alors, pour revenir à « Je casse de l'eau », c'est un peu incompréhensible pour quelqu'un qui... Bon, l'eau, ça casse pas quand même. Bon. Sauf que, en fait, dans mon laboratoire, c'est un peu ça que je fais. Je m'intéresse à la structure de l'eau, qui est un liquide. Il y en a partout. Et d'ailleurs, sans eau, il n'y aurait même pas la vie sur Terre. Bon. Mais il se trouve qu'au début du XXIe siècle, on fait des choses très sophistiquées et l'eau, c'est tellement compliqué qu'on ne comprend pas bien. Bon. Et donc, l'une des façons de comprendre mieux, ça consiste à tirer sur les molécules pour les détacher les unes des autres et faire, en somme, des bulles. Et donc, je fais des bulles dans mon laboratoire. Ça paraît amusant, mais c'est très sérieux. En fait, c'est des ultrasons intenses. Bon. Et donc, je vous dis, je fais des bulles, ce qui est une façon de casser de l'eau pour comprendre mieux sa structure.
Est-ce qu'on ne la connaît pas déjà très bien, la structure de l'eau ?
Eh bien non, vous savez, l'eau c'est un liquide extrêmement bizarre. L'une des anomalies d'ailleurs que tout le monde connaît mais tout le monde ne remarque pas forcément, vous savez, c'est que les glaçons flottent. Les glaçons flottent dans un verre de whisky ou d'eau minérale. Bon. Et puis la banquise flotte au pôle Nord. Bon. Et donc d'habitude les solides sont plus denses, plus lourds que les liquides correspondants. Sauf quelques exceptions remarquables, en particulier l'eau. Alors ça, on comprend pourquoi les glaçons flottent. Hein, bon. Mais il y a beaucoup d'anomalies du même genre qui tiennent un peu à la même chose, c'est-à-dire à la façon dont les molécules s'arrangent entre elles. Alors dans le livre, j'explique que les molécules font des ribambelles, parce que c'est comme les enfants qui dansent. Alors ils dansent en rond, et puis au milieu, il y a un trou. Et donc c'est pour ça que, c'est pour ça que la glace est moins dense que l'eau. Bon. Et donc ce genre de choses, en fait, là je vous raconte ça en souriant, et d'ailleurs dans le livre c'est pareil, mais en fait on est un certain nombre d'équipes dans le monde à se ravager sur les conséquences réelles de cette façon bizarre dont les molécules d'eau s'arrangent entre elles pour faire ce liquide anormal. Alors j'ai des collègues en Inde, aux États-Unis, à Boston, en Amérique latine, bon, un peu partout. Et nous, on fait des expériences là-dessus parce que, je vous dis, au XXIe siècle, on ne comprend pas bien. C'est quand même irritant de ne pas comprendre la structure de l'eau. Donc, on essaye, voilà.
Dans mon labo, je casse de l'eau. Je tire dessus et quand ça casse, ça fait une bulle. Je fais des bulles, si tu préfères.
Mais tu tires comment ?
Bah, ça s'attrape pas par la main de l'eau. Alors, je tire pas dessus comme sur un morceau de bois. Je lui mets la sono à fond, dans une petite boîte, un sacré paquet de décibels. Pour nous, ça revient au même.
Et pourquoi tu fais ça ?
Tu sais, les molécules d'eau, elles ont deux pieds et deux mains pour s'attacher les unes aux autres. Mais on comprend pas bien comment. Alors, pour comprendre, je leur casse les pieds, pas seulement les oreilles.
Vous êtes bizarres, vous autres chercheurs. Sébastien Balibar, donc, vous cassez de l'eau dans votre laboratoire et par ailleurs, vous rêvez et vous faites des rêves de scientifiques à tel point que je me suis dit en vous lisant que ce livre pourrait tout autant s'appeler d'une certaine manière « La physique expliquée à ma fille ».
C'est-à-dire que je suis quand même un scientifique professionnel. Hein, et donc, ce métier de chercheur, quand on aime vraiment ça, et il faut aimer vraiment ça pour réussir, on y pense tout le temps, quoi. Bon. Et donc, sans être vraiment le professeur Nimbus qui est complètement dans les nuages ou le tournesol, c'est-à-dire sans être complètement détaché de la réalité du monde qui m'entoure, c'est quand même vrai que j'y pense tout le temps. Et effectivement, quand je regarde la couleur du ciel, la forme des flocons ou les bulles de champagne dans mon verre, ça déclenche des raisonnements scientifiques et je trouve ça amusant de comprendre ce qui se passe. Oui, oui, effectivement, oui. Mais c'est à la fois sérieux, parce que c'est vrai, c'est de la science du champagne, c'est d'ailleurs très important. Les industriels du champagne, heureusement, qui savent pourquoi il y a des bulles. Et c'est très important, les bulles dans le champagne, oui. Il fait des bulles parce que le champagne contient du gaz carbonique, bon, dissous. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ce gaz carbonique dissous se regroupe, disons, pour faire une bulle qui démarre sur le bord du verre et puis qui, au bout d'un certain temps, monte à la surface. Il se forme des petites bulles à des endroits qui sont hydrophobes, ça veut dire que c'est des endroits qui n'aiment pas l'eau. Par exemple, une petite peluche du torchon qu'on a utilisé pour essuyer le verre. Et c'est pour ça que j'explique qu'il ne faut pas mettre les verres au lave-vaisselle quand on veut sentir le bon parfum du champagne. Parce qu'une fois que la bulle s'est formée, elle se recouvre à la surface de petites molécules qu'on appelle des protéines aromatiques et qui sont un peu comme les molécules de savon. C'est-à-dire que c'est des molécules qui ont une tête et une queue, et la tête aime l'eau et la queue n'aime pas. Donc elles se mettent à cheval sur la surface de la bulle, avec la tête dans l'eau et la queue dans la bulle. Et donc elles recouvrent la surface un peu comme ferait du savon. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que ces molécules, hein, qui ressemblent à des molécules de savon, si on veut, au lieu de sentir le savon, elles sentent délicieusement le raisin. Et donc, la petite bulle est couverte de petites molécules qui sont les vecteurs du parfum du champagne qu'on aime. Et donc, les bulles, elles montent, et puis on a le nez dans le verre. Et donc, quand les bulles éclatent à la surface, elles libèrent le parfum. Et c'est grâce à ça, grâce à ces bulles qui montent, qu'on sent le parfum agréable, je crois, du champagne au moment où on le boit. Donc, les bulles sont absolument cruciales. Alors, en plus, ce qui est amusant, enfin qui moi m'amuse en tant que physicien des surfaces, c'est que, regardez bien, dans votre verre, il y a des bulles, et dans la bouteille, qui pourtant a le même champagne, le même gaz carbonique, etc., la surface est tellement propre qu'il n'y a pas de bulles. Et d'ailleurs, heureusement, parce que c'est dans le verre qu'il faut que les bulles éclatent, pas dans la bouteille. Bon. Donc tout ça, ça m'amuse, voilà, c'est la physique du champagne. Il y a d'autres choses, hein, d'ailleurs, mais...
Subtiles ces affaires de mouillage, c'est l'amour et la haine de l'eau, et en général, pour l'huile, c'est le contraire. Une surface hydrophobe préfère l'huile. Donc, si vous mettez une goutte d'huile sur votre pare-brise, elle s'étale sous forme d'un film que l'essuie-glace a bien du mal à évacuer. Ah, on peut pas tout avoir.
Sébastien Balibar, est-ce que finalement ça n'est pas ça le véritable esprit scientifique, c'est-à-dire cette capacité presque enfantine, presque naïve, à sans cesse se poser des questions qui sont finalement des questions toutes bêtes, évidentes ?
Moi je crois que la base de la recherche scientifique, c'est effectivement d'être curieux, ce qui n'est pas très loin de naïf, comme vous dites. Alors ceci étant dit, il y a quand même plusieurs sortes de scientifiques. J'ai des collègues que j'admire infiniment qui ont l'air extrêmement sérieux. Je ne sais pas très bien si la différence c'est qu'ils rêvent moins que moi ou simplement qu'ils ne le disent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que je crois vraiment que pour avoir des idées originales, il faut se laisser un peu aller, quoi. Bon, alors, simplement, l'essentiel de mes collègues, quand même, sont des gens qui veulent avoir l'air savant, disons. Et quand on veut avoir l'air savant, il faut redresser le menton et prendre un ton doctoral et dire la vérité. Alors, je sais faire aussi, hein. Bon, je vais dans des conférences internationales et bon... Mais disons que je ne me prends pas au sérieux à ce point-là. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de montrer que, bon, un scientifique, aussi occupé soit-il dans son laboratoire, il a ces moments que vous appelez peut-être de naïveté. Mais j'accepte ce mot très bien, hein, naïveté, j'adore ça. D'ailleurs, quand je fais des conférences, vous savez, souvent, il y a des gens dans l'assistance, ils ne comprennent pas forcément ce que j'ai dit, on pose des questions. Bon, d'ailleurs, c'est bien, il faut poser des questions. Alors, les gens, ils ont peur d'être pris sur le fait d'ignorant, en flagrant délit d'ignorance, disons. Alors, ils disent, j'ai une question, mais elle est très naïve, alors est-ce que je peux la poser quand même ? Et moi, je réponds toujours, mais c'est les meilleures, les questions naïves, c'est les plus fondamentales, c'est les plus simples, c'est les plus intéressantes. Donc, la naïveté, j'adore ça, c'est comme la curiosité, c'est pareil.
Nous aussi, à Impatience, on adore la curiosité et la naïveté. Il s'appelle donc Sébastien Balibar, Je casse de l'eau et autres rêveries scientifiques. C'est paru aux éditions du Pommier. Un excellent petit livre à mettre entre toutes les mains. Et en particulier, pourquoi pas, à offrir, si vous avez un enfant un petit peu éveillé, un petit peu curieux, enfin, un enfant de plus de 10 ans quand même, et un enfant qui demande toujours, dis papa, pourquoi, pourquoi ?
Dis-tu pourquoi à l'évidence? Pourquoi toujours chercher ce que tu sais? Pourquoi dis-tu pourquoi à mes silences? Quand tu as peur d'entendre la vérité? Pourquoi dis-tu pourquoi? 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 Encore pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?
Parce que ça me plaît. Pétula Clark, c'était en 1966. Pourquoi dis-tu pourquoi? C'était le choix de nos agents de la phonothèque. Et puis, vous signalez également que Sébastien Balibar sera l'invité de Madeleine Caboche dans Rien n'est joué le 12 décembre sur Radio Suisse Romande. La première, bien entendu.
Impatience. Lucille Solari.